Bon, nous devons suivre un cours sur le judaïsme. Nous avons exactement 12 heures pour une introduction au judaïsme. D'abord, nous avons à nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Et puis, pourquoi étudions-nous un tout petit peu, le judaïsme en théologie catholique? Le judaïsme. Il faut faire attention aux mots français qui se terminent par « isme ». Parce que généralement, le isme est péjoratif. Tandis que Yahadut en hébreu, le judaïsme se dit Yahadut, vous reconnaissez la racine du juif, Yehudi, c'est le juif. Le terme Yahadut n'est pas utilisé dans la Bible. Mais la traduction grecque de la Bible l'utilise, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en hébreu, dans le livre des Maccabées. Deuxième livre des Maccabées, vous avez cette expression « judaïsmos » en grec. Et il s'agit justement de ce que vivent les Juifs, c'est-à-dire les Judéens, les gens de la tribu de Juda qui restaient autour de Jérusalem après la destruction du temple et après l'exil. Et donc, c'est ce que ces gens vivaient. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient le premier monothéisme ainsi exprimé officiellement, c'est-à-dire une religion du Dieu unique et qui est à la source des deux autres monothéismes qui sont le christianisme, issu du judaïsme, nous allons le voir tout à l'heure, le christianisme et également l'islam. Et si nous mettons islamisme, de nouveau, nous arrivons à un sens péjoratif. Donc, il ne faut pas garder ce sens péjoratif pour le judaïsme, c'est simplement, pas seulement la religion juive, bien sûr qu'il s'agit d'une religion, mais d'une religion qui est en même temps, qui prend en même temps toute la vie. C'est un mode de vie, une appartenance. Donc, aussi bien ethnique, politique, économique, littéraire, poétique, et le mot a une acception extrêmement variée d'après les textes. Si vous voyez par exemple ce qu'en dit l'encyclopédie du judaïsme, il doit normalement nous dire quelque chose de précis, et il commence par nous dire que c'est une croyance monothéiste des Juifs. Voilà la première définition. Et alors, il vous dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le mot n'est pas utilisé dans l'Écriture. Il fut manifestement créé, ce mot, par des Juifs hellénisés. Ceux-ci employaient donc la forme grecque, judaïsmos. Il exprime une dimension à la fois religieuse et nationale. Le statut des Juifs, religion ou nation, ou bien les deux en même temps. Et ça, c'est quand même important. Il a été depuis des siècles l'objet de maints débats, surtout à partir de l'émancipation du judaïsme. À Jérusalem, j'ai assisté en 1960 à une discussion entre juifs. Ils étaient une dizaine sur la scène et ils se posaient cette question. Qu'est-ce qu'être juif? Et chacun a donné sa définition ou sa perception de sa judaïté ou judéité, le fait d'être juif, et pas seulement l'appartenance. Ils avaient tous des définitions différentes. Mais ils étaient d'accord simplement sur un point, c'est qu'ils étaient juifs. Et c'est très important. Chacun voit le judaïsme de son côté, de son point de vue. Il n'y a pas d'orthodoxie dans le judaïsme. Il n'y a pas de hiérarchie dans le judaïsme. Mais être juif, c'est une appartenance, mais une appartenance qui tient aussi à notre chair. Ce n'est pas précisément une race, bien qu'on ait parfois parlé de race juive, mais pas totalement une race. Le peuple juif refuse ce concept de race. Il utilise le concept de peuple. Il y a deux mots pour dire peuple en hébreu. Il y a Am et il y a, mais qui signifie nation. Et il y a Kahal. Kahal est traduit, le Kahal c'est la communauté. C'est important de montrer que c'est une communauté. Une communauté convoquée. Et il est intéressant de voir que le terme Kahal, hébreu, a été traduit en grec par laïc, laïkos. Donc un laïc, c'est l'appartenance au peuple élu. Ce n'est pas tout à fait le sens que le mot laïc a aujourd'hui. Mais voyez, le mot laïcos vient justement de l'appartenance au peuple élu. Et donc c'est une appartenance à un peuple. On est juif. On est juif parce qu'on est de mère juive. Le père, mais on ne sait pas toujours qui il est, mais la mère, là, on le voit bien. La question des mères porteuses est encore une autre problématique. Mais donc, voyez-vous la difficulté de dire ce qu'est le judaïsme. Disons, c'est vraiment une appartenance vécue et reconnue. Une appartenance qui est exprimée dans une vie, dans la conception de la vie. Et cette conception de la vie est caractérisée par le fait que toute la vie est sainte. Toute vie est sainte parce qu'elle vient de Dieu. C'est Dieu qui met dans l'homme un souffle de vie. Premier chapitre de la Genèse. Deuxième chapitre de la Genèse, pardon. Du livre de la Genèse. Et donc c'est Dieu qui met la vie. Et la vie est une appartenance de Dieu, et donc en quelque sorte une présence de Dieu. Le Créateur est présent à sa créature, il est présent dans sa créature, puisqu'il y met son souffle. Hein, c'est ça que nous dit le deuxième chapitre de la Genèse. Le Dieu potier fabrique un être d'argile, puis il y met son souffle. Donc la vie est quelque chose, je ne dirais pas de sacré. Nous verrons peut-être qu'il y a une différence essentielle entre sacré et sainteté. Mais sa sainteté, c'est-à-dire une réalité qui vient d'ailleurs et qui va caractériser la présence unique de Dieu, une valeur unique. Et donc c'est pourquoi la vie est sainte, et donc toute la vie du juif est sainte. Parce qu'elle est, d'une manière ou d'une autre, une présence divine. Voilà décrit, de façon assez simple, encore fort embryonnaire, bien sûr, la perception de la réalité. Et donc, le peuple juif a fait une expérience millénaire, une expérience qui s'est transmise de père en fils, de mère en fille, et c'est cette expérience qui est importante. Et l'histoire de cette expérience, et la Bible nous dit l'histoire de cette expérience, mais avec une visée universelle. Bien sûr que le peuple est particulier, il a été choisi par Dieu. Le Midrash, c'est-à-dire une manière un peu vive et imagée de dire les choses, le Midrash dit que Dieu s'est adressé à toutes les nations du monde, les unes après les autres. Et quand Dieu a demandé aux grandes nations, nations importantes, les Assyriens, les Babyloniens, puis les Grecs, puis les Romains, mais ils ont finalement tous refusé parce que Dieu leur disait « Attention, ce n'est pas un privilège, c'est un service. Et ce service va vous procurer des persécutions. » Alors, il a fini par trouver Israël, le peuple d'Israël. Et Israël voulait aussi refuser. Et Dieu dit « Mais vous êtes le dernier !» Alors va, un Dieu va, et on est devenu le peuple choisi. Mais le peuple choisi, c'est le peuple qui va être mis et méprisé par toutes les nations. Peuple, nation. Il y a le juif appartient à un peuple qui est le peuple de Dieu, et même si on ne croit pas en la réalité de Dieu, on croit quand même que Dieu existe. Et Rabin raconte qu'une histoire, c'est que deux rabbins s'étaient mis ensemble et avaient étudié pendant une dizaine d'années pour savoir si Dieu était vraiment, s'il existait vraiment. Et après 10 ans, ils étaient arrivés à la conviction que Dieu n'existait pas. Il rencontre un autre rabbin, ils étaient au café, et on se retrouve, il lui offre un verre, et puis donc ils lui disent que finalement Dieu n'existe pas. Après toute notre étude, on doit dire que Dieu n'existe pas, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, on le projette, chacun a son idée de Dieu. Vraiment, il n'existe pas. Et puis, on serre les verres, ils lèvent leur verre. À la santé du Seigneur. Mais vous venez de dire qu'il n'existe pas. Ça, c'est juste, Dieu n'existe pas. Mais qu'un juif lève son verre sans bénir le Seigneur, ça n'existe pas non plus. Même cette manière de raconter l'histoire humoristique est typiquement juive. C'est-à-dire que le juif a toujours, par rapport, non pas à sa foi, mais à son appartenance, il a toujours une sorte de recul, une sorte de critique intérieure. Il ne vous a pas échappé que nos frères juifs, frères et nos sœurs juives, ont ce mois-ci fêté au moins 3 fêtes. Et ces fêtes sont significatives. Ce sont ce qu'on appelle les fêtes d'automne. Nous verrons la fête en leur temps. Les fêtes d'automne sont les fêtes austères. La première, qui s'est fêtée le 5 septembre, s'appelle Rosh Hashanah. Rosh, la tête, Shana, l'année. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, le nouvel an. qui est l'apparition de la lune du mois de Tishri. L'apparition de la lune. On se fixe sur le soleil, mais aussi sur la lune. Nous verrons ça en son temps. Et Rosh Hashanah, le début de l'année, ce début de l'année est marqué justement par le départ de ce que nous appellerions, nous, dans notre langage chrétien, un examen de conscience. C'est-à-dire une ouverture au jugement de Dieu. Dans la Bible, le jugement de Dieu est toujours un jugement de salut. Hein, nous le savons bien. Enfin, j'espère. C'est toujours un jugement de salut. Le jugement, c'est toujours pour manifester, à travers un manque, la plénitude de ce que Dieu donne, la plénitude de la grâce. Et donc, c'est le début de 10 jours, comme les 10 doigts de la main, hein, c'est-à-dire l'activité va être une mise en présence du Seigneur de l'année qui vient de s'écouler. On va lui remettre l'année entre les mains, telle qu'elle est. Et donc, on va lui présenter ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal pour qu'il le prenne. Donc c'est un dépouillement, un vidouille, comme on dit, un aveu des fautes. Il ne faut pas nécessairement tout dire, mais il faut lâcher tout. Ce n'est pas si facile hein, de lâcher sa faute. Pas si facile. On y tient tellement qu'elle revient sans cesse. Bizarre. Hein. Et donc cette fête du Rosh Hashanah va mener, 10 jours après, au Yom Kippour, le jour de... Kippour veut dire expiation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, expiation? Nous traduisons, et de façon très juste, le grand pardon. Yom Kippour, c'est le jour du pardon de Dieu, du jugement de salut de Dieu. Et là, on demande que chaque personne vivent un jour de jeûne absolument complet, 24 heures de jeûne absolu, et que on vive dans ce pardon à recevoir. Il faut du temps pour recevoir le pardon. Et donc c'est la persévérance de ce pardon. Et puis, le Yom Kippour va, 10 jours après de nouveau, et cette année c'était du 20 au 26, il vient de terminer, il y a la fête de Soukhot. Ne vous en faites pas, je dis les mots, je ne les écris pas, ils reviendront, on les apprendra petit à petit. Soukhot, nous traduisons les tentes, il faudrait mieux traduire les cabanes, la fête des cabanes, fête d'automne, c'est-à-dire le fait de la moisson des fruits d'automne. Les pommes, les poires, les sabras, c'est-à-dire les figuiers de barbarie, les grenades, le raisin, les figues. Donc, cette récolte des fruits d'automne. Donc, vous voyez, ces trois fêtes sont trois fêtes qui reprennent l'action humaine. Et l'action humaine mise à la disposition ou sous le regard de Dieu. De cette présence qui nous façonne, qui nous fait exister, et qui nous échappe. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit Saint Jean dans son prologue. Le Fils unique, celui qui est tourné vers le sein du Père, lui nous l'a révélé. Mais chacun est unique. Donc chaque unique qui est tourné vers le sein du Père nous révèle quelque chose de cette présence divine, nous le raconte. Et donc dans la mentalité juive, chacun peut nous apporter quelque chose de cette présence divine. dit dans les termes de la Genèse, vous pouvez manger de tous les fruits de ce jardin. De tous les fruits de ce jardin. Les fruits des arbres de ce jardin, oui, bien sûr. Mais l'arbre, dans la Bible, représente toujours l'homme, comme l'animal d'ailleurs, parce que l'homme est à la fois animal et végétal et minéral. Il est un microcosme. Et donc, quand on parle d'arbre, il y a toujours quelque part une sorte de symbolique, harmonique, je préfère dire harmonique, d'un sens intérieur, qui est important, évidemment, plus important que l'extérieur. C'est pourquoi toute la religion juive va être une grande danse de symboles, c'est-à-dire d'images qui se mettent les unes avec les autres, qui s'échangent des unes aux autres. Toute la Bible est cela. Toute la Bible, c'est l'image profonde de notre réalité humaine. Et donc, ceci vous permet d'entrer un peu dans la mentalité du judaïsme. À partir de la Bible, cette Bible qui est devenue aussi chrétienne, à cause justement de la mémoire de Jésus, Jésus avait toute cette mémoire de la réalité de son peuple, et il nous l'a léguée en héritage. Mais donc, la lecture de la Bible juive, la lecture juive de la Bible, disons plutôt comme cela, va être assez différente de la lecture de la Bible chrétienne. Mais elle va nous permettre aussi, et c'est pourquoi, un des éléments importants, c'est pourquoi nous attachons au judaïsme, la lecture de la Bible vue par le juif devrait être assimilée comme Jésus l'a assimilée, pour que nous puissions en découvrir des tas de choses qui nous échappent, parce que la Bible est traduite dans nos langues, où les mots n'ont plus cette résonance telle qu'elle l'avait, telle qu'elles l'ont encore dans la Bible. Donc voilà, c'est ce monde que nous allons essayer d'étudier quelque peu, dans lequel nous allons pénétrer. Et alors, le compute des années va être différent aussi dans le judaïsme, le calendrier est différent. Eh bien, nous sommes à l'année 5774, ou 74 si vous voulez. 5774, voilà. Nouvelle année, et justement à la fin de la fête des tentes, qui rappelle le séjour des Hébreux au désert, qui rappelle notre séjour dans des tentes ou dans des cabanes. C'est pourquoi pendant 8 jours, on va habiter, ou en tout cas passer la nuit, dans une cabane. Et quand on est dans une ville, on va faire une petite cabane sur sa terrasse, hein, ou éventuellement dans son petit jardin, et on va passer la nuit pour montrer que notre vie est fragile, vulnérable. Et chaque fois, pour montrer que, et pour nous faire ressentir aussi dans notre corps des choses importantes puisqu'elles sont essentielles. La vulnérabilité de notre existence, la fragilité. Et le dernier jour, des 8 jours de la fête de la récolte, hein, des fêtes détente, on pense aussi au séjour qui vient, c'est-à-dire à l'au-delà. Et on fête le dernier jour, le 8e jour de la fête, le grand jour, comme on dit dans l'évangile de Saint Jean, on fête la Simchat Torah, la joie de la Torah. Ah, voilà. Toute la vie juive est centrée sur la Torah. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible, ce que nous traduisons par Pentateuque, 5 livres comme les cinq doigts de la main de Dieu, hein, signifie de nouveau la présence divine. Dieu agit, il agit par son verbe, par sa parole. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces cinq livres de la Torah? La source. Là aussi, la Torah, le mot Torah, veut dire le lancement de flèches. Ce sont des flèches de vie qui sont lancées. Nous traduisons par loi, mais vous voyez, à côté du mot Torah, loi a une signification très dévaluée. Une loi, ce sont des choses à observer. Mais non, ce sont des vies à découvrir. C'est le mode d'emploi de notre existence. Et justement, de nouveau en hébreu, on va dire, on veut jouer sur les mots, parce que yara, la racine, yara veut dire lancer une flèche, tirer une flèche. Donc un enseignement, l'enseignement est toujours une flèche, dire une interpellation. Et le mot hara, oui, les deux, yara ou hara, c'est très proche, ça veut dire enfanter. Donc Torah, Horat Israël, la Torah est la matrice d'Israël. La Torah, c'est cette vie découverte dans sa profondeur. Mais nous en avons fait une loi. Et ça, c'est le passage de la mentalité hébraïque à la mentalité grecque, hein, où on est passé de la réalité vitale à une sorte de réalité abstraite. Et dans notre langage encore. Notre langage, même notre langage chrétien, est très souvent abstrait. On en fait des termes abstraits. Rédemption, salut. Mais c'est l'être sauvé, le salut. C'est l'expérience de la façon dont nous sommes sauvés. Qu'est-ce que c'est qu'un salut? Être restauré dans son existence profonde. Vous voyez qu'il est important de voir dans une mentalité les choses essentielles. Eh bien, tout ça, c'est le judaïsme. Ça appartient au judaïsme. Et ne me demandez pas une définition, je dirais, plus prégnante. Non, c'est une expérience, le judaïsme. L'expérience de Dieu présent dans notre vie, dans toute vie, parce que c'est lié à la vie. Et le juif ne croit pas d'abord, il agit d'abord. Il n'y a pas d'hétérodoxie, il y a une hétéropraxie. Il faut agir juste. Et agir juste, c'est rencontrer cette présence divine personnalisée telle qu'elle existe en chacun, en chacune, et donc telle qu'elle existe dans le peuple. Le juif dira très facilement, la parole de Dieu s'est faite chair dans le peuple d'Israël. Ce que Saint Jean va traduire, le verbe, la parole s'est fait chair. Mais maintenant, dans un homme, voilà la différence. Dans le peuple, et donc dans chaque homme. Je suppose que vous avez déjà lu le livre « De la kippa à la croix » d'un rabbin devenu chrétien qui est venu l'an passé faire une petite conférence ici, Jean-Marie Élie Sedbon. Et justement, il a écrit ce livre « Conversion d'un juif au catholicisme ». C'est très intéressant parce que c'est un juif rabbin. Et donc, il a fait toutes ses études, et même pas n'importe quel rabbin, mais un rabbin de la plus stricte observance. Et qui a été absolument retourné dès son enfance. Il vivait à Paris. Dès son enfance, tout petit, il a été fasciné par la croix. La croix qui est, pour le juif, l'instrument d'horreur, puisque c'est au nom de la croix qu'on les a persécutés. Nous allons voir ça aussi. Et à la fin de ce livre, il ne faut peut-être pas le lire tout de suite, tout entier. Il faut laisser peut-être le dernier chapitre pour après. Parce que là, il montre la différence. Il l'a expérimenté lui-même. La différence entre le judaïsme et le christianisme qu'il a embrassé. Et de façon assez. Lui, il le traduit souvent quand il parle de façon très, très humoristique et de façon très profonde, mais aussi, je dirais presque, par un hasard des choses. Judaïsme au sens strict, je vous lis ici, c'est la religion de la pensée et de la culture du peuple d'Israël depuis la réforme d'Esdras, au sens large. C'est ce qui constitue la vie juive au point de vue intellectuel, social, religieux et pratique. C'est aussi une vocation, une tâche, c'est-à-dire être soi-même, être juif. Le terme Israël est aussi ambigu. Il s'agit bien sûr, Israël, c'est le peuple de la Bible, mais qui se réclame de Jacob, qui a été surnommé par Dieu Israël, dont une étymologie populaire dit fort contre Dieu. Oui, contre celui qui est tout contre, fort de cette présence de Dieu. Oui, c'est ça. Et qui vient évidemment. Hein, de la vision de Jacob à la rivière du Yabok, avant de rencontrer son frère Ésaü. Son frère Ésaü, dont il avait peur à la veille de la réconciliation. Donc c'est bien. Mais après le schisme, hein, qui a succédé au règne de Salomon, c'est le royaume du Nord opposé à Juda. Israël, donc, ça, c'est devenu le royaume du Nord, hein, qui a été scindé en deux. Le Nord, Israël, la Samarie actuelle et la Galilée, opposée à Juda, c'est-à-dire Jérusalem et les environs. Maintenant, Israël, c'est l'État d'Israël, qui correspond plus ou moins. Juif, c'est celui qui est originaire de la tribu de Juda. C'est l'équivalent de judéen. Et attention, dans l'évangile de Jean, juif a plusieurs sens. Juif signifie à la fois le judéen, d'abord le judéen, celui aux alentours de Jérusalem. Il signifie celui qui appartient au peuple d'Israël. Il signifie aussi le chrétien qui reste encore accroché à Israël. C'est pour ça que un même mot peut avoir des significations très diverses. Donc, soit le membre du peuple en général, parfois avec une connotation méprisante, et dans l'évangile de Jean, je le note ici, l'expression les Juifs signifie souvent les adversaires de Jésus, ou ce qui en nous est adversaire de Jésus. Ça signifie aussi, dans l'évangile de Jean, une sorte de paganisation de cette présence divine. Judéité, c'est le fait d'être juif. Israélite est souvent, hein, synonyme de juif, qu'il soit d'ailleurs religieux ou non, dans un sens plus large. Hein, un israélite, mais c'est souvent utilisé pour la religion. Ne pas confondre israélite et israélien, évidemment. Israélien, c'est un membre de l'État d'Israël, Et justement, un Israélien a été défini comme celui qui est de mère juive, qui revient de quelque part de la diaspora du monde, qui revient vivre à Jérusalem, et qui n'a pas changé de religion. Mais c'est arrivé un peu plus tardivement, si bien qu'il y a beaucoup de juifs qui sont devenus chrétiens, et qui ont quand même qui sont devenus aussi israéliens, parce qu'on n'avait pas encore établi, pourvu qu'ils n'aient pas changé de religion. Hébreu, c'est plutôt la souche ethnique. Un hébreu, c'est un ivri. Ivri, en hébreu, veut dire le passeur. C'est un nomade, passeur dans le sens d'un nomade, mais c'est bien plus que ça. C'est celui qui passe constamment d'une réalité divine à une autre réalité divine, c'est-à-dire qui approfondit constamment sa religion, son être juif. La diaspora, ce vocable, c'est la dissémination des juifs par le monde. À l'époque de Jésus, un citoyen romain sur 10 était juif. Autour de la Mésopotamie, de la mer Méditerranée, il y avait partout des centres juifs, tout autour de la Méditerranée. Saint Paul, citoyen romain, faisait partie de la gens Paula, qui avait été accepté comme citoyen romain, citoyen noble, si vous voulez. Palestine. Oh, ça c'est un mot tout à fait piégé. Région d'Israël conquise par les pirates appelés Philistins. Philistim, les Philistins, sont les ancêtres des Palestiniens. Alors, et cela, donc c'est au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Nom donné péjorativement par Adrien à la Judée. Après avoir maté la révolte de Bar Kokhba en 135. Donc, Adrien, par mépris, a appelé ce territoire Palestine de ceux qui étaient les ennemis d'Israël, les Philistins, les ennemis, les grands ennemis bibliques à l'époque de David surtout. Et souvent repris jusqu'en 1948. À présent, c'est le territoire arabe. En partie occupé par les colonies juives, en instance de devenir l'État palestinien. Vous voyez, donc quand on parle de la Palestine à l'époque de Jésus, bon, c'est un vocable tout à fait romain et péjoratif. Maintenant, ceci donc c'est une panoplie que j'essaie d'ouvrir simplement. Mais qui se dit dans un vocabulaire très déterminé aujourd'hui. Pourquoi maintenant parler de judaïsme? Bien sûr, comme nous sommes une religion parmi d'autres, il est important de connaître ces religions. Et il y a des cours sur les grandes religions du monde. Et il y a un séminaire aussi qui étudie justement, qui est une théologie chrétienne des religions. Quel est le rapport du christianisme avec les autres religions ambiantes et qui s'interroge sur la nécessité du dialogue entre les religions. Quelle est la souche première des religions? Cette souche anthropologique. Liés à notre réalité humaine. Et ici, c'est important de percevoir ce qu'est la liaison profonde entre l'homme et la religion, les origines des religions. C'est le titre d'un très beau livre de Julien Ries, qui est professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, qui a finement été cardinalisé, si on peut dire, c'est-à-dire que Benoît XVI a nommé cardinal parce qu'il a reconnu son travail. À 91 ans, ça n'avait pas beaucoup de sens de nommer quelqu'un cardinal. Il n'avait plus voix au chapitre. Mais c'était justement pour reconnaître son énorme travail d'anthropologie religieuse. Et ce livre, Les origines des religions, montre comment la réalité anthropologique est religieuse finalement. Et religion a une vie, quelle qu'elle soit maintenant la perception des choses. Et justement, il a un de ses livres plus savants, et qui est un recueil d'articles, où il montre que dans toute religion, il y a la réalité profonde, le nœud profond, qui est la vie. L'homme s'interroge d'abord sur le fait qu'il vit. Et même s'il n'a pas beaucoup de capacité intellectuelle, il vit quelque chose. Il vit la réalité homme. Et il a souci de cette réalité. Il essaye de la parfaire. Et cette réalité profonde qu'il est, qu'il vit, qui est la vie, c'est le symbole. C'est-à-dire ce qui renferme toutes les réalités, toutes les virtualités de ce qu'il vit. C'est ça le symbole. C'est une réalité profonde. C'est la plus profonde. C'est notre existence. Traduit dans des mots chrétiens, c'est le mystère. Le mystère de chacun, le mystère que nous sommes, le mystère que nous vivons, ensemble et personnellement. Ça, c'est la réalité. Le symbole, c'est la réalité. Je sais bien qu'on utilise souvent le terme symbole comme un synonyme d'image ou de métaphore, mais ce n'est pas du tout cela. Ça va beaucoup plus loin. Et lisez dans l'anthropologie, dans le cours d'anthropologie, ce que Albert Chappelle dit à propos du symbole. Donc le symbole, c'est la réalité. Mais cette réalité se dit culturellement, dans une langue, avec des images qui sont toujours teintées d'une culture. C'est évident. On ne peut pas faire autrement. Et cette culture va précisément essayer d'exprimer par la pensée, par l'idée, l'idéologie, par ses images, par sa vie tout simplement, va essayer d'exprimer ce symbole profond, cette existence fondamentale. Et c'est pourquoi ce symbole va toujours se traduire dans toutes les religions par ce qu'il appelle une mythologie. Une mythologie, c'est une manière de voir et d'imaginer, toujours des images dans les idées, de voir et d'imaginer la réalité. Le symbole, évidemment, vous avez compris, c'est la réalité de Dieu. Ça, c'est la réalité essentielle. Mais maintenant, chacun va essayer d'exprimer Dieu dans sa langue, dans sa manière de voir, dans ses images. Et à partir de là, il va exprimer cela dans des rites. Réalité profonde qui passe dans des mythologies, c'est-à-dire dans des manières de s'exprimer et de vivre, et qui va se percevoir de manière particulière dans des rites. Nous vivons tous cela en anthropologie. Les hommes et les femmes vivent tous cela. Cette réalité profonde qui se dit dans une imagination, dans une perception des choses, une perception qui peut être familiale, qui peut être national, qui peut être universel, peu importe, mais qui s'exprime dans des gestes. On va à la messe, on prend de l'encens, toutes sortes. Et justement, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est un retour à cette anthropologie profonde. Et c'est bien pour ça que le père Julien Ris a reçu cadeau le chapeau cardinalis. Pourquoi, dans ce contexte d'histoire des religions, nous intéressons-nous au judaïsme? Alors, dans le cours, dans le syllabus que vous aurez bientôt, il y a deux parties. Il y a la partie qui correspond au programme que je viens de vous donner. Et puis, il y a une autre partie qui sont des documents. Je vous donne un document sur le « Qu'est-ce que le judaïsme vu par Lévinas ?» que vous connaissez par ailleurs. Et puis j'ai le texte de Vatican II. Et c'est ça qui est important. Scrutant le mystère de l'Église. Scrutant son propre mystère. Mystère, réalité profonde. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement la pensée du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Avec la lignée d'Abraham. Qui est cet Abraham? Ceux qui suivent le cours sur la Genèse vont voir tout ce que peut signifier Abraham. Est-ce que c'est un monsieur de l'histoire? Est-ce que c'est la réalité de l'histoire ou de l'expérience de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez ce film qui a été transmis il y a quelques années d'un homme, c'était un Américain, mais qui connaissait bien l'arabe et qui a fait un film sur Abraham. Et il a d'abord été évidemment à Hébron, puisqu'il y a la tombe d'Abraham à Hébron. Et il a commencé par interroger les juifs, les musulmans, les chrétiens qui sont là à Hébron et tout autour et dans le pays. Est-ce qu'Abraham a vraiment existé? Et chacun voulait avoir son Abraham, d'une manière ou d'une autre. Puis il a ouvert son enquête, il a été en Europe et en Amérique, et il a interrogé les professeurs d'université. Les gens étaient dubitatifs souvent. Est-ce que Abraham n'est pas une construction de l'esprit? Est-ce que ce n'est pas Israël qui s'est donné un patriarche pour avoir quelque chose de divin au départ, quoi? Puis on dit, on a pu trouver ce vieux rabbin-là, c'est un sage. Et il va trouver ce rabbin, finalement, et il lui pose la question, « Est-ce qu'Abraham existait ?» Ben oui, lui répond le rabbin, « C'est moi. » Oui. C'est moi. C'est vrai que Abraham, c'est l'histoire de tout croyant. Comment chacun arrive-t-il à sa foi ? Ou à son existence religieuse. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. L'Église du Christ en effet reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. Ça, c'est la mythologie. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance et qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils. Les gentils, ce sont les nations. Ceci est évidemment une allusion au chapitre 11e de l'Épître aux Romains. L'Église croit, en effet, que le Christ, notre paix, a réconcilié les juifs et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, par sa croix, et en lui-même, des deux, a fait un seul. Et alors, l'Église a toujours devant les yeux les paroles de l'apôtre Paul sur ceux de sa race, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la foi, la culture, les promesses et les pères. Eux enfin, de qui, selon la chair, est issu le Christ. Voilà, pour percevoir le mystère de notre Église, nous avons non pas à judaïser, mais à en découvrir la force et la puissance. Le Fils de la Vierge Marie. Elle rappelle aussi que les apôtres, fondements et colonnes de l'Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu'un grand nombre des premiers disciples qui annoncèrent au monde l'Évangile du Christ. Au témoignage de l'Écriture sainte, Jérusalem n'a pas reconnu le temps où elle fut visitée. Les Juifs, en grande partie, n'acceptèrent pas l'Évangile, et même nombreux furent ceux qui s'opposèrent à sa diffusion. Néanmoins, selon l'apôtre, les Juifs restent encore, à cause de leur père, très chers à Dieu, dont les dons et l'appel sont sans repentance. Avec les prophètes et le même apôtre, l'Église attend le jour connu de Dieu seul, où tous les peuples invoqueront le Seigneur d'une seule voix et le serviront sous un même joug, citation de Sophonie. Et voilà pourquoi nous sommes non pas seulement en droit, mais nous avons le devoir de connaître au moins la réalité profonde du judaïsme. Et de même que nous n'aimons pas que on ne réduise l'Église à l'institution, ainsi nous n'avons pas non plus à réduire le judaïsme aux images que nous donnent les médias ou que nous nous forgeons nous-mêmes. Nous avons essayé de comprendre de l'intérieur comment le judaïsme a une sève que Jésus nous donne à vivre. C'est le mystère de « Je suis la vigne et vous êtes les sarments » de Jésus au chapitre 15e de Saint Jean. C'est cette raison-là qui fait que nous avons un devoir tout à fait particulier vis-à-vis du judaïsme. Et que le judaïsme a encore quelque chose à nous apporter. Parce que nous pouvons croire, comme on l'a cru très longtemps dans la tradition de l'Église, que le judaïsme est fini, il est terminé. Or, justement, et nous le verrons d'une manière un peu plus particulière, petit à petit, que le judaïsme a quelque chose d'extrêmement important à nous apporter encore maintenant. Et c'est pour ça que le vis-à-vis juif-chrétien est permanent. C'est que notre Église n'est pas encore le royaume des cieux. Elle l'est déjà, mais elle ne l'est pas encore. Et nous pourrions croire trop facilement que nous avons la vérité et que nous sommes déjà devenus Jésus-Christ. Et nous avons à découvrir aussi avec le Concile, que Jésus-Christ, il n'a pas encore fini de vivre dans nos existences particulières, ni dans notre Église, loin s'en faut. Et si nous fêtons cette année le 50e anniversaire de Vatican II, c'est pour mesurer en même temps toute la distance qu'il nous faut encore franchir pour nous laisser imbiber de cette présence de Jésus vivante depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il y a là quelque chose, il y a là un mystère que nous avons à approfondir. Et c'est pourquoi le judaïsme a été mis à part dans la déclaration Nostra Aetate, à notre époque, de Vatican II, a été mis à part avant les autres religions. Parce que le lien que nous avons avec le judaïsme est vraiment essentiel à notre existence chrétienne. Et c'est ça qu'il va falloir creuser petit à petit. Et si nous allons découvrir un peu quels sont les éléments de l'orthopraxie juive, de la manière de vivre juive, c'est précisément pour recevoir des choses dont nous nous sommes parfois emparés sans en découvrir la valeur. Si vous lisez, nous y viendrons à son moment, La Promesse, le livre La Promesse de Jean-Marie Lustiger, il nous montre presque constamment combien le paganisme s'est emparé de la racine et de la moelle juive et l'a dénaturée tout au long de l'histoire. Et que ça, c'est aussi un type d'idolâtrie. Voilà. Ceci était apéritif. Nous verrons maintenant, à travers le programme que je vous ai donné, nous verrons maintenant les différentes étapes du judaïsme. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire. Les étudiants libres. Les autres, je suppose qu'ils l'ont fait déjà.